Exode chapitre 32, versets 7 à 14. Exode chapitre 32, versets 7 à 14, au nom de Jésus. Alors le Seigneur dit à Moïse, redescends tout de suite, car le peuple que tu as fait sortir d'Égypte a commis un grave péché. Ils se sont bien vite détournés du chemin que je leur ai indiqué. Ils se sont fabriqués un veau en métal fondu. Ils se sont inclinés devant lui et lui ont offert des sacrifices. Ils ont même déclaré, « Voici notre Dieu, celui qui nous a fait sortir d'Égypte. » Eh bien, j'ai vu ce que vaut ce peuple. Ce sont tous des rebelles. Alors laisse-moi intervenir dans ma colère, je vais les exterminer. Puis je ferai naître de toi une grande nation. Mais Moïse supplia le Seigneur son Dieu de s'apaiser en disant, « Seigneur, pourquoi déchaîner ta colère contre ton peuple? Après avoir déployé ta force, ta puissance irrésistible pour le faire sortir d'Égypte, si tu agis ainsi, les Égyptiens vont dire, « C'est par méchanceté que le Seigneur a fait sortir les Israélites de notre pays. » C'était pour les massacrer dans la région des montagnes et les faire disparaître de la terre. Ô Seigneur, apaise ta colère, renonce à faire du mal à ton peuple. Souviens-toi de tes serviteurs Abraham, Isaac et Jacob, auxquels tu as fait ce serment solennel. Je rendrai vos descendants aussi nombreux que les étoiles. Je leur donnerai le pays que j'ai promis et ils le posséderont pour toujours. Alors le Seigneur renonça à faire son peuple le mal dont il l'avait menacé. Amen. Nous venons d'entendre et de lire le texte dans la version français courant. Mais j'ai pris ici notre Bible et je vous invite à réentendre le texte, mais cette fois-ci dans la traduction de Chouraki, un rabbin. Et vous allez voir où est-ce que je veux en venir. Je reprends le texte. Adonai parle à Moshe. Va, descends. Oui, ton peuple s'est corrompu, celui que tu as fait monter de la terre de Misraïm. Ils se sont vite écartés de la route que je leur ai donnée. Ils se sont fait une fente, un veau, et ils se prosternent devant lui et sacrifient. Ils disent, les voici tes Elohim, Israël, qui t'ont fait monter de la terre de Misraïm. Adonai dit à Moshe, j'ai vu ce peuple, voici c'est un peuple dur de nuque, lui. Maintenant laisse-moi, ma narine brûle contre eux. Je les achève, je fais de toi une grande nation. Moshe souhaite les faces de Yahvé, son Elohim, et dit, pourquoi Adonai, ta narine brûlerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir de la terre de Misraïm, à grande force, à main puissante. Pourquoi Misraïm, dirait-il, pour dire, il les a fait sortir pour le malheur, pour les tuer dans les montagnes et les achever sur les faces de la glèbe. Retourne de la brûlure de ta narine. Émeux-toi du malheur de ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, des serviteurs auxquels tu as juré par toi-même, et auquel tu as parlé, je multiplierai votre semence comme les étoiles des ciels. Toute cette terre dont j'ai dit, je la donnerai à votre semence, ils la posséderont en pérennité. Adonai s'émeut du malheur qu'il a parlé de faire à son peuple. Amen. Voilà. Vous avez senti peut-être une traduction un peu bizarre, très littérale, qui ne respecte pas les règles grammaticales, bien sûr. Mais l'objectif, c'est d'avoir une traduction plus proche de l'original, littéralement parlant. Et il faut savoir, toute traduction, qu'on le veuille ou non, ont une empreinte culturelle, lexicale, de l'origine du pays où la traduction a été faite. Donc, la version française courante, qu'on le veuille ou non, a une compréhension très occidentale. Alors, c'est pour ça que j'ai lu la version Chouraki, Et vous avez peut-être constaté par vous-même l'orientation donnée par le traducteur, je dis bien le traducteur mais pas l'auteur, à partir de ce genre de traduction. Et je vais relever un par un les mots suivants dans le texte. Verset 9. « J'ai vu ce peuple, voici c'est un peuple dur de nuque. » Et dans la traduction en français courante, c'est « rétif » dans « Chouraki »,« dur de nuque ». Une description anthropomorphique. Verset 10. « Laisse-moi, ma narine brûle contre eux. » Dans la version français courante, « ma colère ». Donc, c'est colère, c'est un peu léger. Mais ici, « ma narine brûle ». Vous imaginez un peu comme dans les dessins animés, là, hein, la colère. Verset 11. « Moshe souhaite la face d'Adonai. » Ça, c'est dans Chouraki. Et dans la version français courante ou NBS ou autre, Moshe souhaite apaiser Adonai. La face. Donc, quand on parle de la face de Dieu, que la face de Dieu soit avec toi, c'est-à-dire que la paix de Dieu. Pourquoi Adonai, tes narines brûleraient-elles? Dans la traduction, pourquoi tu te mets en colère contre ton peuple que tu as fait sortir de la terre de Misraïm à ta grande force et main puissante. Il parle d'une main puissante. Verset 12. Retourne de la brûlure de ta narine. Dans notre traduction, reviens de ta colère ardente. Et émeut-toi du malheur de ton peuple. La version Chouraki, version traduction français courante, renonce au mal. Émeut. Et verset 13, « Souviens-toi d'Abraham. » Verset 14, « Adonai s'émeut de sa colère. » Français courant, « Adonai renonça au mal. » Voilà, j'ai relevé ces points qui me sont vraiment tombés dessus comme ça au moment où j'ai préparé cette méditation. Et en relisant ces versets, qu'avez-vous remarqué ? Chouraki, à travers sa traduction, nous donne une lecture que je disais tout à l'heure, anthropomorphique. C'est-à-dire, on donne une image d'un Dieu qui réagit comme un être humain. Il parle de nuque raide, narine brûlante, la face de Dieu, une main puissante, émue, quelqu'un qui a de l'émotion, brûlure de narine, quelqu'un qui se souvient. Et dans tous ces chose que je viens de citer, à part la nuque raide, tout est lié à l'éternel. Alors là, l'anthropomorphisme de Dieu, c'est-à-dire, on essaie de prêter à Dieu une forme humaine. Regardez déjà dans la Genèse, Dieu qui se baladait dans le jardin. C'est une forme anthropomorphique. On donne à Dieu des sentiments ou des comportements humains. Dieu qui brûle de narine, au sens littéral, c'est pour exprimer une colère plus qu'ardente, que l'on ne peut pas dissimuler, car cela se voit tout de suite sur son visage. Il ne peut pas le cacher, sa colère. Il parle aussi d'une main puissante pour mettre en valeur la force de Dieu, comme si c'était quelqu'un qui voulait montrer ses muscles. Quand il parle de libération d'une main puissante, une vraie démonstration de force. Et tout le monde, je crois, a entendu parler la façon dont Dieu a fait sortir son peuple de la main puissante du Pharaon. Cette façon de décrire Dieu à l'image de l'homme est, pour moi, très intéressante. Cela pose polémique même. Est-ce que Dieu pourrait-il avoir des sentiments comme un être humain? Est-ce qu'un Dieu pourrait avoir une réaction forte comme l'homme? Est-ce qu'un Dieu pourrait être en colère? Etc, etc. Toutes des questions qui pourraient vraiment aboutir à des discussions sans fin. Et d'ailleurs, je me suis penché sur un professeur de théologie, le professeur André Gounel, a fait souligner que beaucoup s'offisqueraient à un anthropomorphisme de Dieu, car cela, pour certaines personnes, serait qualifié de blasphème religieux. c'est-à-dire mettre Dieu au même niveau que l'homme ou rendre Dieu humain. Si Dieu, moi personnellement, si Dieu n'a pas de sentiments, alors ils auraient même les caractéristiques des idoles. C'est ça qui le différencie des idoles, chers amis. Les idoles n'ont pas de sentiments, ce sont des pierres. Les idoles sont figées, les idoles ne bougent pas, les idoles ne réagissent pas. Mais pour moi, voir mon Dieu qui se met en colère, un Dieu qui s'émeut, un Dieu qui pleure, me rassure. Au plus profond de mon âme, ce n'est pas un Dieu indifférent de ma situation. Il est à la fois transcendant, loin, mais aussi un Dieu très proche de l'homme. N'est-ce pas ce que nous retrouvons en Jésus ? Ce Jésus, il vient du ciel, né bébé dans les bras d'une femme. Il mange, il a soif, il a faim, il meurt même à la croix. Un Dieu qui peut mourir, c'est scandaleux. Il est remonté au ciel pour dire qu'il vient de là où il était. Oui, un Dieu parmi nous, Emmanuel, mais qui reste toujours Dieu au-dessus de nous. Tel est ton Dieu. Oui, Dieu peut se mettre en colère. Beaucoup n'aiment pas qu'on parle de cela. On veut toujours faire montrer un Dieu gentil, qui guérit les malades, qui donne à manger, un enseignant, un rabbin qui enseigne. Mais n'oublions pas que c'est un Dieu qui peut montrer sa colère, non pas dans le but d'exterminer ni d'anéantir, mais encore une fois, c'est une colère animée par une passion jalouse. Un Dieu qui est jaloux. Le premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Ça veut dire, tu sais mon enfant, je suis jaloux. C'est de l'amour ça, n'est-ce pas ? C'est pas de la haine. C'est un amour, un Dieu qui est comme un être humain, qui peut être jaloux. Il le montre et il n'a pas honte de le dire. Et face à ce spectacle désolant que nous voyons dans l'Exode chapitre 32, regarde ton peuple. Qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Ce peuple qui vient de sortir d'Égypte, ce peuple que j'ai montré ma force, mes muscles, regarde ce qu'ils sont en train de faire. Comment Dieu l'a fait sortir de la maison d'esclavage et comment il a jugé les dieux des Égyptiens dans la mer. Et là, sans gêne, ce peuple, sans scrupule, il crie la louange et la gloire des dieux égyptiens qui pourtant ont été humiliés et piétinés dans la mer Rouge. C'est vraiment une gifle qu'on donne à Dieu. C'est comme ça qu'il me remercie, ce peuple. Il me humilie. Mais rassurez-vous, si Dieu montre encore sa colère, c'est parce qu'il aime son peuple. Il se déclare même comme étant son époux. Je suis l'époux d'Israël. Mais s'il ne manifesterait plus sa colère, cela signifie que c'est fini. Il n'éprouve plus rien. D'ailleurs, c'est effectivement ce qui s'était passé. Regardez bien la dynamique du texte. Le changement d'humeur de Dieu est phénoménal, impressionnant. Je ne sais pas pour vous, mais je dis, est-ce que l'auteur a fait un raccourci trop vite ? Ce Dieu qui a libéré le peuple d'une grande force et d'une main puissante, qui est dans une grosse colère, et tout à coup, il s'émeut. Vous imaginez le grand écart d'émotion ? Quelqu'un qui est en furax, qui est vraiment en colère, et tout à coup qui a pitié. C'est, ça ne se voit pas. Ça n'existe pas. Il était sur le point d'exterminer et d'effacer ce peuple sur la surface de la terre. Il avait proposé à Moïse, je vais refaire mon alliance avec toi. Je vais les exterminer. À partir de toi, je ferai une grande nation. Il était sur le point de réduire cette population. Et ici, si vous avez bien suivi la lecture, le comportement des Israélites était inexcusable. Et c'est pour cette raison que le Seigneur a voulu les exterminer.
Et ce serait encore très faible de dire qu'ils étaient idolâtres, avoir d'autres dieux en plus de l'Éternel. Mais ce qu'ils ont fait est pire que l'idolâtrie. Ils ont mis Yahvé inférieur au veau d'or. En écoutant leur chant de gloire, leur chant d'éloge à ce veau d'or qu'ils ont prononcé en dansant devant cette idole, ils ont osé dire que c'est ce veau d'or-là qui les a sauvés, qui les a libérés, comme si Yahvé n'avait rien fait, voire même comme si Dieu n'existe pas. N'est-ce pas ce que nous faisons parfois? Quand on est dans un moment critique, priez pour moi. On va prier ensemble, on va jeûner, on va faire tout ce qu'on veut. Et alors, quand on a réussi, ah, si je n'étais pas intelligent. Ah, si je ne connais pas tel député. Ah, si je n'étais pas dans un cercle d'amis. Si je n'étais pas au potentiel, je n'aurais pas pu avoir ce poste. Et Dieu, où il en est où dans tout ça? C'est comme ça. Vous dites, oui, mais Israël, c'est un peuple. Oui, mais Israël, c'est moi, c'est toi. Oui. On peut alors comprendre pourquoi il avait été en colère. Mais toutefois, et là c'est l'évangile dans ce texte, est-il possible pour une personne qui aurait ce genre de colère, atteignant un pic de colère, pourrait tout à coup changer d'humeur? Dieu qui sait mieux. C'est impossible, chers amis, pour un être humain. Et là, Dieu n'est pas comme un être humain, heureusement. Et là, nous pouvons voir que Dieu se distance de nous, largement de l'homme, à travers ce genre de comportement. Et je vais vous exprimer ce que ça veut dire, ce verbe « s'émouvoir » a un sens anthropomorphique dans le texte hébreu. Littéralement, il est pris aux entrailles. Vous imaginez? C'est comme Jésus, à chaque fois, qui est pris aux entrailles lorsqu'il voyait un malade. L'évangile de Marc reprend ce verbe. Regardez bien dans les évangiles synoptiques. Marc est le seul à utiliser ce verbe. Jésus est ému devant une situation. Et ce n'est qu'après qu'il guérissait les malades. Les intestins qui se retournaient. Voilà un petit peu le langage anthropomorphique. Ce n'est pas juste quelqu'un qui fait semblant ou quelqu'un qui fait beaucoup d'efforts pour se calmer. Allez, tu dois te calmer. Calme-toi, calme-toi. Non. C'est un sentiment profond qui le marque dans sa chair. Et là, nous pouvons vraiment glorifier le nom de Dieu. Car il prend vraiment de la hauteur en tant que Dieu et ne réagit pas comme nous. Heureusement que Dieu n'est pas comme nous, même s'il parle comme nous. Et je vous invite à entendre sa parole pour terminer cette méditation, qui dit de façon très claire dans Osée chapitre 11, versets 8 à 9, « Comment pourrais-je te traiter, Éphraïm? Comment pourrais-je te livrer, Israël? Comment pourrais-je traiter comme Adma? Te rendrais-je semblable à Tseboïm? Mon cœur est bouleversé, toute ma pitié s'émeut. Je n'agirai pas selon ma colère ardente. Je ne reviendrai pas pour détruire Éphraïm, car je ne suis pas un homme, mais Dieu. Étant saint, je suis le saint. Je ne viendrai pas avec ma fureur. Amen.